L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Le 30 septembre à Bourg-en-Bresse avait lieu l'inauguration d'un salon de beauté très privé, le salon de beauté sociale et solidaire. Porté par la Croix-Rouge, c'est un lieu qui permet à chacune et chacun de renouer avec son image et de reprendre petit à petit le chemin du prendre soin de soi. Ici, on parle de beauté et de soins certes, mais aussi de dignité et de liens. Floriane Morel-Bressan, conseillère en économie sociale et familiale à l'origine du projet sur notre territoire, nous accueille et nous présente les lieux et les personnes qui le font vivre.
On retrouve toute l'équipe après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Poursuite du projet de construction EPR2 du site du Bugey.
EDF et RTE, gestionnaires du réseau de transport d'électricité français, ont pris la décision le 25 septembre dernier de continuer le projet de construction de deux réacteurs nucléaires EPR2 à proximité immédiate de la centrale existante du Bugey.
Ce projet dans la plaine de Lens s'inscrit dans le programme Nouveau Nucléaire, comportant la construction de trois premières paires de réacteurs EPR2 à Penly en Seine-Maritime et à Gravelines dans le Nord.
D'ici la fin de l'année, Fabienne Bouccio, préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes réunira le comité régional stratégique EPR2 afin de proposer une nouvelle gouvernance et de définir ensemble les grandes orientations. D'après le calendrier prévisionnel d'EDF présenté dans le cadre du débat public, EDF devrait déposer la demande d'autorisation environnementale, puis la déclaration d'utilité publique au cours de l'année 2026. Une fois obtenue, les travaux pourraient alors débuter courant 2027.
Mois de l'économie sociale et solidaire, c'est parti.
Le mois de l'ESS se tient chaque année en novembre à travers toute la France. Son objectif est de sensibiliser à cette forme d'économie en favorisant la rencontre d'acteurs et d'initiatives locales.
Mais l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est exactement ?
L'ESS, c'est un ensemble d'organisations, associations, coopératives, mutuelles, fondations ou entreprises à mission sociale qui placent l'utilité collective avant la recherche du profit. Et cette année, l'événement s'étend sur 2 mois, du 9 octobre au 4 décembre, sur l'ensemble du département.
Vous pourrez par exemple vous rendre au ciné-débat Bigger Than Us, la jeunesse en action, jeudi 9 octobre à 14h à la MCC de Bourg-en-Bresse.
Ou participer à des tables rondes comme celle dont le thème est « Face à la marchandisation du secteur associatif, s'adapter ou résister ?» le jeudi 6 novembre à 18h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse.
Radio B, les bonnes ondes.
Tisser des liens avec le cocon dans l'Ain.
Le cocon est un centre social itinérant sur le département. Afin d'être au plus proche de la population, il se déplace dans la communauté de communes Rive de l'Ain, Pays de Cerdon. Grâce à des permanences délocalisées, ce centre social a pour vocation, entre autres, de développer du lien social, de soutenir des initiatives d'associations, de citoyens et d'orienter la population dans leur demande d'accès aux droits ou d'accompagner les familles dans leurs fonctions parentales.
Tout au long de l'année, le cocon offre des espaces d'animation et d'échange dans 14 communes selon une programmation définie.
Pour cet automne, le cocon propose des rencontres familles comme un atelier vannerie pour tresser la matière végétale et une conférence autour du sommeil des petits avec Marion Mosselin, éducatrice des jeunes enfants, le samedi 25 octobre à Poncin. Et pour plus d'infos et pour s'inscrire, rendez-vous sur le nouveau site du cocon, lecocon.centre-sociaux.fr.
L'un dans l'autre, l'interview. Un nouveau lieu vient d'ouvrir à Bourg-en-Bresse, un salon pas comme les autres. Porté par la Croix-Rouge, il permet aux personnes en situation de grande précarité de reprendre confiance en elles pour mieux se réinsérer dans la société. Floriane Morel-Bressan, conseillère en économie sociale et familiale et salariée de l'association depuis 2023, nous présente les lieux et le projet.
Cocooning, où tu te sens que quand tu rentres, c'est cool quoi. 6 mai, on a démarré les travaux, j'avais fait des photos. Bon là c'était la salle de coiffure. On est locataire de Grand Port Habitat. Mmh. qui a fortement investi dans les travaux pour qu'on puisse ouvrir et avoir des travaux de qualité comme ça. Ils ont vraiment mis une belle enveloppe travaux. Et puis nous, Croix-Rouge aussi, a investi pour pouvoir demander des financements, en fait.
Vous cherchez depuis longtemps ?
Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Le montage de dossiers, recherche de financement. On a eu beaucoup de financeurs. C'est un montage vraiment à plusieurs têtes pour arriver à ça aujourd'hui. Donc là, tu es dans l'espace accueil, porte d'entrée... par laquelle les personnes qui bénéficieront du salon pourront être accueillies. Donc je reçois pour un premier rendez-vous. Le salon, ça se passe comme ça. Je reçois pour un premier rendez-vous avec suite à une prescription d'un partenaire médico-social. Oui. Donc ouais, je te parlais de programme, que du coup on était orienté par un partenaire médico-social. Donc le partenaire médico-social, il peut être divers. Là, j'ai les assistantes sociales de secteur qui m'ont fait des orientations. J'ai le centre de santé sexuelle qui m'a fait une orientation. J'ai l'accueil de jour femmes. On ne fait pas toc-toc et on veut bénéficier d'une prestation. On n'a pas d'enseigne, on n'est pas un commerce. Voilà, les gens ne rentrent pas s'ils n'ont pas de rendez-vous. Voilà, c'est uniquement sur prescription. Au salon, on ne vend pas de produits et on n'oriente pas surtout à la suite dans des partenaires extérieurs type coiffeuse ou esthéticienne. L'idée, c'est les deux professionnels qui œuvrent au salon, autant en esthétique qu'en coiffure, elles vont permettre à tout à chacun d'apprendre les gestes ou de réapprendre des gestes qui étaient oubliés et qui permettra de gagner en autonomie et de montrer qu'ils ont totalement les capacités. Donc c'est de réaffirmer la confiance en soi au travers du geste de prendre soin de soi. Donc, je rencontre la personne une première fois au salon avec le prescripteur, on fait un rendez-vous tripartite. Je fais visiter les locaux, j'explique un peu ce qu'on peut y faire, comment on va proposer les choses. Et puis derrière, la personne valide ou pas le fait de partir en programme. On propose 6 mois d'accompagnement autour de l'estime de soi. Un rendez-vous par mois en alternance avec la socio-esthétique et de la socio-coiffure. Donc 3 rendez-vous de socio-esthétique, 3 rendez-vous de socio-coiffure. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, on accueille un public mixte, à la fois des femmes et des hommes. Le salon fait partie intégrante d'un parcours de projet. On est sur de la beauté sociale et solidaire, on fait de la coiffure de rue, on fait de la lévère en santé et bien-être. Et la conclusion, c'est aussi le salon, mais toutes ces actions existent. Le salon vient complémenter tout ça. La coiffure de rue, on l'a démarré en janvier 2024. On a fait 11 séances et je crois qu'on a vu un peu plus de 200 personnes, 230 personnes, je crois, en un an, à raison de 11 séances sur l'année. Et à chaque fois, j'ai 3 coiffeurs qui œuvrent pendant 3 heures. Donc voilà, ça donne le ratio. Les gens, malheureusement, viennent. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin... par rapport à cette problématique, et c'est un public qui, dans l'échelle des besoins, le prendre soin de soi, il est très éloigné. Grande exclusion, c'est dire qu'on cherche comment on va manger ce soir, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce que on va pouvoir survivre entre guillemets. Mais on a vu les effets sur les uns et les autres, et nous notamment un public masculin, parce que nous en rue on voit quand même 90% de messieurs, et on a vu le bien que ça pouvait leur faire, l'attention qu'ils portaient à eux-mêmes et ce vers quoi ça pouvait leur permettre d'aller après. On s'est dit, si avec ce public grand marginalisé on arrive à proposer de telles choses, du coup la beauté sociale et solidaire avec l'ouverture d'un salon pourra aussi toucher un autre public.
Dans ce salon, on retrouve des professionnels du soin et de l'accompagnement. La beauté devient ici un outil de mieux-être, une manière de reprendre confiance en soi. Rencontre avec Anne Astrid, socio-esthéticienne. Alors là, du coup, on fait un petit tour du salon.
On fait un petit tour du salon et on trouve Claire Astrid, qui est notre socio-esthéticienne donc sur le salon de beauté sociale et solidaire. Et je laisserai Claire Astrid présenter ses missions parce qu'il y a qu'elle qui pourra le mieux en parler.
Alors du coup, vous êtes socio-esthéticienne.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer dans cet univers, en fait ?
Alors moi, à la base, c'est vraiment une reconversion professionnelle. Ce qui m'a poussée vraiment à m'orienter dans cette formation, ça a été, j'étais confrontée à la maladie de ma grand-mère. Et en fait, je l'ai vu tellement souffrir et partir dans des états très compliqués que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Il y a forcément des choses qui existent pour pouvoir prendre soin des personnes au quotidien. Et je me suis renseignée sur ce qui existait autour. Donc, j'ai découvert la formation de socio-esthéticienne qui permettait donc d'intervenir soit dans les hôpitaux, soit pour les personnes justement en réinsertion sociale, les personnes aussi en CHRS, les femmes victimes de violences conjugales, pour leur apprendre à retravailler leur image, leur confiance en soi, leur donner des astuces. Avoir ce côté bien-être dans la bienveillance et la douceur et qui soit en autonomie et bien avec eux-mêmes.
Et donc vous, concrètement, quand vous recevez quelqu'un, quelle est la différence avec un parcours esthétique classique ?
Par exemple, une esthéticienne, quand on vient chez une esthéticienne, on vient pour une prestation, épiler, faire un soin du visage. Là, le but, c'est vraiment leur permettre d'avoir une transmission de conseils pour qu'eux, ils puissent reproduire à la maison comment ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Par exemple, quand on a un gommage maison, comment appliquer sa crème, ou comment appliquer son maquillage. Là, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent « j'ai du maquillage, mais je ne sais pas comment m'en servir ». Et du coup, ça va être pouvoir leur donner des conseils. À côté, je suis également travailleuse sociale et je trouvais que c'était très complémentaire en fait de pouvoir accompagner les personnes, certes dans les démarches au quotidien, le côté administratif, le budget, etc., mais qu'ils aient également la dimension du bien-être, parce que des fois, tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, c'est difficile de pouvoir cheminer sur le reste, quoi. Donc je trouvais ça très complémentaire.
Vous pouvez nous présenter un petit peu votre espace ?
Oui, bien sûr.
Qui est en plein aménagement.
C'est ça, on est en plein aménagement. Donc là, on est en train de ranger un peu donc, les produits qu'on a reçus et que donc, je pourrais me servir en tant que durant les prestations. Et du coup, là, donc, on a un petit coin où on peut maquillage. On a un coin, où j'ai installé une table de massage où là elles vont avoir plus un temps soin du visage, comment prendre soin de soi avec un gommage, un masque, ou ça peut être aussi un temps massage pour celles qui sont d'accord avec ça, surtout au niveau des épaules, cuir chevelu, en tout cas voilà.
un rendez-vous, ça dure combien de temps à peu près ?
Là on met une heure.
Ok. Au sein du salon de beauté social et solidaire, chaque geste compte. On y vient pour se poser, pour prendre soin de soi. La proposition d'accompagnement comprend aussi des rendez-vous coiffure, parce que reprendre confiance en ses capacités passe aussi par le regard que l'on pose sur soi, surtout après une longue maladie. Emma, socio-coiffeuse, nous explique son engagement, son travail et ce qu'il apporte aux personnes accueillies.
Voilà, donc on a refait un salon... coiffure traditionnelle, on va dire, toujours avec la notion d'être bien accueilli, de s'y sentir cocooning, d'un endroit où on peut se dire on dépose des choses. Donc à la fois l'espace bac à shampoing, Emma va me reprendre, bac shampoing et puis espace coupe, mais aussi on a un espace pour apprendre. Voilà, Emma va être là pour apprendre à faire des techniques soi-même, mais elle vous en parlera tout de suite mieux.
Ok, merci.
Voilà. Oui, alors je suis Emma et je suis socio-coiffeuse.
Qu'est-ce que c'est socio-coiffeuse ?
Alors socio-coiffeuse, c'est une spécialité en coiffure. On passe une formation spécifique où on est formé par des cadres de santé, des psychologues. Donc c'est pour justement accompagner les personnes fragiles et vulnérables. La définition de la socio-coiffure, c'est qu'on ne travaille plus dans le paraître, on travaille uniquement dans l'être.
Vous, qu'est-ce que ça vous apporte ? Comment vous vous êtes dirigée vers cette formation ?
Je me suis dirigée vers cette formation pour le côté humain. Le côté humain, le côté bienveillance. J'ai été coiffeuse à domicile dans mon plus jeune âge. Et ensuite, le côté socio-coiffure, c'était principalement les perruques qui me plaisaient énormément, justement, cet accompagnement en oncologie pour les dames quand elles ont un cancer et qu'elles perdent leurs cheveux, d'être accompagnées justement à cette épreuve-là.
Donc vous fabriquez les perruques, c'est ça ?
Alors je ne les fabrique pas, je les reconditionne. Donc, c'est-à-dire que je les achète chez le fournisseur, mais je les réadapte à chaque personne. Donc, s'il y a besoin de faire de la couture, on refait de la couture. S'il y a besoin de recouper, on recoupe. S'il faut friser, on frise. S'il faut raidir, on raidit. Donc, vraiment, j'ajuste vraiment pour que ça soit elles quand elles prennent leur perruque.
D'accord, donc c'est une coupe de cheveux sur la perruque.
Tout à fait. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment plu dans la socio-coiffure, justement accompagner les dames dans la maladie. Et également tout le côté un petit peu des personnes, on va dire, rejetées par la société, que ces personnes-là ont aussi le droit d'avoir des soins, des conseils, de l'écoute, de la bienveillance. Et je dirais que la socio-coiffure, c'est tout ça.
Si on peut se réjouir de l'ouverture d'un tel lieu, on pourrait tout aussi bien espérer que ce besoin disparaisse, car derrière l'aide apportée, la réalité est celle de la grande précarité. On écoute Floriane Morel-Bresson nous en parler.
Moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 2006 sur les Maraudes. Donc, c'est un public que je connais bien, etc., la situation de grande exclusion. Et j'ai été recrutée en novembre 2023 sur un poste de travailleur social, maraude de rue, et puis en journée et en soirée. Je suis arrivée avec le projet de beauté sociale et solidaire, avec le projet d'ouvrir un salon pour pouvoir permettre à des personnes de prendre soin d'elles, de se reconstruire, de reconstruire leur image, de retrouver confiance en leurs capacités. Quand la vie est difficile et qu'en fait, t'as plus les moyens financiers de prendre soin de toi, ça fait pas partie des priorités de ton quotidien, hein. Tu t'oublies, les choses elles s'enchaînent, et plus les choses s'enchaînent, plus tu t'oublies, et après t'as plus le goût de recommencer à prendre soin de toi. Sauf que le public qu'on reçoit là, pour l'instant majoritairement bénéficiaires du RSA, on va leur dire il faut aller faire 15 heures d'activité, il faut vous remettre en marche dans la société, il faut vous réinsérer. Et pour un public qui a été exclu pendant des années, qui a vécu sur une parallèle en fait, par rapport au quotidien lambda des personnes, de se remettre dans la société, c'est hyper compliqué. On vit dans un microcosme quand on est bénéficiaire de prestations sociales. On est toujours sur les bons plans, on est toujours sur du tricotage un peu à l'extrême pour que les deux bouts ils se tiennent jusqu'à la fin du mois. C'est souvent des gens qui prennent soin d'enfants qui peuvent être malades, de parents vieillissants, de familles qui peuvent être un peu élargies, ou c'est toujours une personne qui prend soin, mais pas d'elle. Et à chaque rendez-vous, je dis, on s'en rajoute pas. La charge mentale, elle est déjà très haute. Ici, c'est un moment où on pose et on prend du temps pour soi et on réaccueille ce qu'on peut être, en fait. Voilà. Pour l'instant, on n'a eu que des femmes qui ont franchi la porte du salon. C'est des femmes qui ont voulu être là, en fait. Elles ont déjà eu beaucoup de courage de refranchir la porte d'un salon où elles se disent là je vais être dans un espace où on va me réapprendre à prendre soin de moi. Donc moi je leur dis déjà mais c'est tout gagné en fait, vous êtes là aujourd'hui, le reste ça va être facile en fait, mais non, c'est pas quand on veut, l'espace dans ces vies qui sont morcelées, dans ces vies qui sont en dents de scie et tout ça, il n'y a plus l'espace de ça, il n'y a plus l'espace du prendre soin de soi. Les femmes font le dos rond, courbent les chines, et avancent et continuent, en fait, lâchent pas, mais à quel prix, en fait. Là, moi, je rencontre des femmes qui me disent j'ai mal, très très mal au dos, j'ai mal aux épaules, avec des tensions musculo-squelettiques énormes. On a reçu plusieurs dames qui ont eu des cancers divers, et qui sont là aujourd'hui et qui viennent réapprendre à prendre soin d'elles, et je me dis mais c'est magnifique, enfin, moi j'ai beaucoup de chance de les rencontrer, et je crois que c'est nous qui allons apprendre d'elles.
Et donc cette reconnexion, on imagine bien qu'elle ne se passe pas en une seule fois, non. Et donc tout à l'heure vous parliez d'une prise en charge de 6 mois, ouais. Avec combien de rendez-vous ?
Donc on ne voulait pas que ça soit du one shot, parce qu'on ne veut pas réveiller quelque chose en la personne en se disant en fait c'est cool de prendre soin de soi, ça m'a fait vraiment du bien. Mais qu'est-ce que je fais derrière ? On voulait créer un mouvement d'habitude. Pour beaucoup de femmes, je crois quasiment toutes celles que j'ai rencontrées pour l'ouverture du salon et la mise en route du programme, beaucoup n'osent plus sortir de chez elles, sont très isolées, ne sont plus connectées à un réseau de personnes amicales, ont un peu de famille, voire pas. Et les personnes qu'elles fréquentent, c'est quand elles vont chercher leur colis alimentaire, dans des associations caritatives. Et encore, de sortir pour ça, c'est hyper dur, quoi. Enfin, de se dire, la seule sortie que je vais avoir de ma semaine, c'est pour ça. Et donc là, c'est aussi le principe de se dire, bah, en fait, je vais ressortir, mais pour quelque chose qui va me faire du bien, on va rien me demander. Ça sera juste un endroit pour moi où je vais pouvoir déposer bah, ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien. Voilà, on ne fait pas du tout, on n'est pas psychologue, hein, c'est pas le souci, mais c'est le corps qui va parler et qui va permettre de reconstruire.
Enfin, la meilleure manière de comprendre ce lieu, c'est encore d'écouter celles et ceux qui le fréquentent. Une usagère en rendez-vous le matin de notre visite a bien voulu répondre rapidement à nos questions. Alors, comment avez-vous entendu parler du salon de beauté solidaire ?
Du coup, c'est par rapport à mon assistante sociale qui m'a proposé ce projet.
Okay. Ouais. Donc, c'est un projet ?
Oui. Bon, c'est sur 6 mois, du coup, une fois par mois... alterner socio-coiffure et socio-esthéticienne.
Est-ce que vous aviez déjà des habitudes de ce côté-là ?
C'est-à-dire ?
De prendre soin de soi, d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez la coiffeuse, ou pas du tout ?
Oui, enfin, coiffeuse plus trop, parce que du coup, niveau budget, c'est compliqué. Voilà, c'est devenu très cher. Donc, esthéticienne, pareil. Donc après, c'est que à la maison, quoi. Couper les cheveux soi-même, faire les produits soi-même.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accéder au salon de beauté sociale et solidaire ?
Bah, du coup, de pouvoir un peu s'occuper de soi et qu'on puisse nous apporter des astuces ou voilà, et puis avoir un temps pour soi. C'est un très joli salon et ça a permis de couper un peu les cheveux, de faire une coupe.
Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise de manière générale pour être accueilli ici que dans un autre salon ou c'est vraiment juste une limite financière de ne pas aller ailleurs ?
C'est juste une limite financière. Voilà. Et quand même plus à l'écoute que dans un salon.
Des ateliers collectifs seront aussi organisés au sein du salon de beauté sociale et solidaire. Ils seront proposés exclusivement sur orientation. Un premier atelier aura lieu avec les femmes du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, toujours autour de la notion du prendre soin de soi. Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info local
sur Radio B.
Et L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine et merci Jimmy à la technique.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info local.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. Dun, 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 dun.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.